Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La Première Ministre a présenté ce mardi 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale le programme d'action de son gouvernement. Judith Souminois s'est dit consciente des défis majeurs qui attendent son équipe dans différents secteurs de la vie, notamment les défis sécuritaires et socio-économiques. Toutefois, il affirme la détermination de son gouvernement à les surmonter à travers un programme axé sur 6 piliers traduisant les promesses électorales du président Félix Tshisekedi. Selon elle, ces piliers permettront d'accélérer le développement économique et social de la RDC. C'est entre autres la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la création d'une économie plus diversifiée et plus compétitive. Que vous inspire ce programme d'action du gouvernement souminois? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne depuis le palais du peuple Pastizapamba. Il est député national élu de Popokabaka, province du Kwango. Il est vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Il est également membre de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir, honorable Pastizapamba.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Et lui, c'est le prince Epengue qui vient de faire son entrée ici dans ce studio. Il est président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle. Il est membre de la plateforme Lamuka. Il est un des porte-parole de cette plateforme. Bonsoir, Prince Epengue.
Bonsoir, M. le journaliste. Bonsoir,
merci. Et lui également est en ligne, c'est Jeff Mudimbi. Il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Vous allez nous excuser pour le retard avec lequel nous venons de commencer cette émission. Donc nous disions, la Première Ministre s'est dit consciente des défis majeurs qui attendent son équipe dans différents secteurs de la vie, notamment les défis sécuritaires et socio-économiques. Toutefois, Judith Souminois affirme la détermination de son gouvernement à les surmonter à travers un programme axé sur 6 piliers se fondant sur le programme électoral du président Félix Tshisekedi 2024-2028. Il l'a dit ce mardi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du programme de son gouvernement. Les détails avec Grace Amzati.
Ces 6 principaux engagements du gouvernement souminois sont, entre autres, la création de plus d'emplois afin d'absorber des dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau des sous-emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux d'échange afin de leur garantir une meilleure qualité de vie, la pacification du pays, la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, l'accès aux services sociaux de base comme les soins de santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, ainsi que le renforcement de l'efficacité des services publics. Selon la Première Ministre, ces piliers permettront d'accélérer le développement économique et social de la RDC. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui concernent les différents domaines d'intervention. À leur tour, ces axes se déclinent en 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement menés par les ministres sectoriels. Judith Souminois ajoute que l'action gouvernementale continuera de mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ses progrès.
Merci à vous, Grace Amzati. Le programme d'action du gouvernement présenté par la Première Ministre est chiffré à 92 milliards de dollars américains et s'étend sur les 5 prochaines années et vise à matérialiser la vision politique du président de la République intitulée « Allons-y, unité, sécurité et prospérité ». D'après la Première Ministre, ce programme est structuré en 6 piliers et 52 axes stratégiques. Il vise à réhabiliter les Congolais dans leur dignité, promouvoir le dialogue pour la consolidation de la paix, renforcer la société technologique et à allouer les ressources avec efficacité et équité. Comment seront donc répartis les 92 milliards de dollars dans la mise en œuvre des 6 piliers du gouvernement, du programme du gouvernement souminois? On écoute justement Judith Souminois dans cet extrait proposé par Michel Kifinangoy.
Le programme d'action du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui devant votre auguste assemblée se chiffre à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains pour les 5 prochaines années et devra être totalement financé par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. La répartition du coût du programme suivant ces différents piliers se présente ensuite. 30% est alloué au pilier 1 qui porte sur la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages. 25% sont alloués au pilier 3 qui porte sur l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. 20% sont alloués au pilier 2, qui porte sur la protection du territoire national et la sécurisation des populations et des biens. 15% sont attribués au pilier 4, qui a pour action de garantir l'accès aux services sociaux de base. 5% sont alloués au pilier 5, qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. 5% enfin sont alloués au pilier 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique.
Pasi Zapamba, vous êtes député national élu de Popokabaka, province du Kwango. Vous êtes vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Vous êtes également membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez suivi le discours de la première ministre sur les programmes d'action de son gouvernement. Et que pensez-vous de ces programmes d'action du gouvernement souminois, Pasi Zapamba?
Merci. Pour la radio Okapi, pour cette opportunité que vous nous offrez de commenter au moins le programme d'action présenté par Madame la Première Ministre Souminois, à qui je dis merci et que je félicite pour son programme combien costaud et ambitieux et qu'il a présenté d'une si belle manière. Mais je suis resté un peu perplexe dans ce sens que Madame la Première Ministre n'est pas la première autorité dans ce pays à présenter un si beau programme. Les présenter, c'est une chose, avoir des ambitions, c'est autre chose, mais maintenant, matérialiser ces ambitions, c'est là que se pose le vrai problème. Mais j'ai cru comprendre que Madame a pris des précautions en disant que son premier investissement repose sur l'homme. Et là, je suis parfaitement d'accord avec elle quand elle dit que la première ressource et la ressource la plus importante, c'est l'homme. Et donc, elle a quelque peu rencontré ma préoccupation, tout simplement pour deux raisons ci-après. Lorsqu'on dit qu'on va créer d'emplois, lorsqu'on dit qu'on va faire face aux défis sécuritaires, lorsqu'on doit protéger les citoyens congolais, cela veut dire quoi en d'autres termes sur l'ensemble de ces six piliers? Il faut mobiliser les recettes. Et donc, son efficacité sera jugée en fonction de la mobilisation tout à zimut de moyens, des recettes, surtout sur le plan interne, parce que les recettes extérieures posent toujours des problèmes. Et donc, quand il parle de l'homme qui doit être au centre de son action et qu'elle va focaliser son attention sur cette personne qui doit abandonner les mauvaises pratiques et permettre à ce que les recettes collectées soient orientées vers les trésors publics pour une bonne répartition selon le plan qu'il a décliné. En ce moment-là, je suis d'accord avec elle.
Pasi Zapamba,
je vous en prie.
Oui, on s'arrête sur cette question importante des mobilisations des recettes. Hein. Vous êtes vous-même expert en finances publiques. Quand vous voyez la capacité de mobilisation des ressources financières, n'est-ce pas, des gouvernements précédents dans ces pays, est-ce que vous êtes certain que ces 18 milliards de dollars seront mobilisés là où nous avons, n'est-ce pas, du mal à combattre les coulages des recettes publiques, là où nous avons du mal à élargir l'assiette fiscale?
C'est possible. Vous avez vu que avec certaines réformes qui ont été entreprises, avec la volonté exprimée par le président de la République une fois qu'il a accédé au pouvoir et qu'il a livré un chien de chasse, que je peux appeler l'inspecteur ou l'inspection générale des finances, on est très vite passé d'un budget de 4 milliards jusqu'à 11 milliards. Et aujourd'hui, on a budgétisé 16 milliards avec le projet de finances 2023 et tout comme 2024, 16 milliards. C'est possible avec les hommes. Ce qui veut dire quoi? En d'autres termes, si le contrôle administratif à lui seul a permis quand même à la République démocratique du Congo de franchir la barre de 10 milliards du point de vue des recettes budgétaires. Et donc, si on y ajoute maintenant le contrôle parlementaire qui n'a jamais existé depuis tout ce temps-là, parce que le contrôle parlementaire, qui est le contrôle politique, est le contrôle le plus important. Et si on le mettait en musique aujourd'hui, si on met la Cour des comptes en branle, si on prend la CNRF et si on active toutes ces structures de lutte contre la corruption, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il suffit que... Rappelez-vous de Luzolo Bambi, à l'époque, qui vous disait que 15 milliards échappent au trésor public. Et quand nous nous sommes retrouvés avec l'inspecteur général, chef de service à Linguette, dans une conférence à l'université de Kinshasa, il a reconnu que les 15 milliards dont parlait le professeur Luzolo étaient encore insignifiants par rapport à la gabegie financière qu'on rencontre. Donc il suffit que Madame la Première Ministre quitte l'étape de déclaration de la lutte contre la corruption et qu'elle s'engage politiquement à sanctionner tout le clown en cravate et qu'elle s'engage réellement sur des réformes, comme vous pouvez le constater, des réformes alors dans le sens de renflouer les caisses de l'État, c'est possible d'atteindre 18 milliards et d'aller au-delà de 18 milliards. C'est pourquoi, pour moi, la première recommandation, toutes les promesses, elles sont bonnes, mais c'est dans la capacité de mobilisation de recettes. Il suffit qu'ils définissent les responsabilités et l'orientation de chaque département des ministres qu'il va utiliser et qui doivent se mettre et qui doivent privilégier l'intérêt général au profit de leurs intérêts. Parce que quand ils signent des contrats, quand ils doivent engager, quand on doit engager des marchés publics, au lieu que ce soit pour des pourcentages qu'on doit rétrocéder à ceux qui sont responsables de ces marchés et qu'on vise l'intérêt général, c'est possible et avec l'accompagnement de tout le monde. Et parce que nous tous, nous allons nous mettre debout pour que nous puissions regarder ce dont elle sera capable.
Combattre la corruption, quand on sait que c'est devenu presque un comportement normal,
Je viens de vous dire tout à l'heure. Je viens de vous dire tout à l'heure, monsieur le journaliste. Prenons le cas le plus récent d'un forage de puits d'eau à 297 000. Mais nous attendons la justice. Nous attendons même cette équipe gouvernementale. Ces messieurs-là qui savent qu'un forage d'eau ne peut pas dépasser 30 000 ici, dans ce pays, et que ce monsieur-là puisse encore se promener dans la rue, en ce moment-là, nous pouvons nous décourager. Mais si elle est déterminée à convaincre ou à vaincre l'impunité, on doit arrêter tout le kulouna en cravate. C'est celui-là le vrai problème. C'est ce qui fait que les recettes de l'État s'amenuisent dans le trésor public. Imaginez un peu qu'on puisse encadrer tout ce qui entre par Kasumbalesa, par le Congo central, et qu'on puisse utiliser la patrouille financière comme elle est engagée pour l'instant, et que toutes les structures de contrôle étatique se mettent en branle pour surveiller et les membres du gouvernement et tous les autres citoyens de la République. Il est possible
d'utiliser
18 milliards et au-delà de 20 milliards. Mais
oui,
l'autre partie, une fois qu'on les a mobilisés, il faudra aussi la qualité de la dépense pour n'affecter que là. Parce que si on résout aujourd'hui les problèmes de mobilisation des recettes, en ce moment-là, on mettra fin à la guerre, on va s'occuper des infrastructures routières, on va s'occuper de l'amélioration des conditions des citoyens congolais.
C'est oui, honorable Pastor Pamba, oui, vous avez tout à fait raison, mais vous savez qu'elle est, c'est vrai qu'elle est chef du gouvernement, mais elle évolue dans un système. Hein. Vous avez vu même comment elle est devenue première ministre, comment les difficultés qu'elle a rencontrées pour former son gouvernement. Et une fois le gouvernement est là, il a été même contesté alors qu'il n'était pas encore investi. Combattre la corruption, comme je le disais tantôt, c'est devenu un comportement normal.
Pour combattre ça,
il faut.
Le président de la République a parlé de la lutte contre la corruption. Mais jusque-là, il n'y a pas un engagement sérieux de la lutte contre la corruption.
Voilà. Donc,
il faudra le temps que la première ministre prenne son ministre de la Justice. Il faut, parce qu'on nous a dit que la justice est malade. On ne peut pas lutter contre la corruption avec une justice malade. Et nous avons suivi que l'actuel ministre de la Justice qui va entrer en fonction a déjà lancé le couleur. Et nous pensons que ici, le vrai problème, c'est l'impunité. Monsieur le journaliste, dans une émission à la radio Okapi, je vous avais déjà dit ceci. Il suffit qu'on prenne un ministre de la République, qu'on prenne un député, un directeur général qui a détourné, comme le cas actuel. On ne peut pas l'envoyer en prison à Makala. Non, il faut l'approcher pour lui dire où se trouve l'argent de la République que vous avez détourné.
Vous avez raison, honorable. On a déjà entendu tout ça.
Je termine.
Mais ici, la
si
préoccupation.
Si on prend ces ministres-là, on dit rendez-nous l'argent. Il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un, un député, un ministre, l'envoyer à Makala. Ce n'est pas ça la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption nous dit ceci. Quand quelqu'un a détourné, il a l'obligation de restituer ce qu'il a détourné. Pendant qu'on cherche à restituer, on le voit, on va le chercher à la prison de Makala. Il vient avec sa tenue de prisonnier, en train de ramasser les immondices dans la rue. Et tout le monde le filme et le voit. Je crois que le deuxième DG, le député, le ministre, le général qui détourne l'argent de la guerre, tout le monde sera
merci.
Et on peut arrêter la corruption.
Merci, il faut que cela puisse se faire effectivement. Et vous êtes dans ce système-là, vous connaissez le système, comment il fonctionne. Hein? Vous avez vu, je le disais ici, comment elle a mis son gouvernement en place et comment ce gouvernement a été contesté. Et certainement qu'il y a des impératifs politique, n'est-ce pas, qui pourrait la pousser à revoir à la baisse ses ambitions. Et tout cela, ça demandera, n'est-ce pas, du temps pour initier des réformes, pour arriver à concrétiser ces réformes, pour arriver à combattre la corruption. Or, l'opinion publique a besoin de résultats immédiatement. À votre avis, quels sont les atouts que pourrait détenir Mme Souminwa pour le moment, pour arriver, n'est-ce pas, à concrétiser certains de ses piliers? Les atouts qu'elle a actuellement.
Le premier atout, c'est l'engagement politique du président de la République. L'engagement, je dis bien l'engagement, parce que là, il a exprimé la volonté de lutter contre la corruption. Maintenant, l'engagement, c'est-à-dire, il a l'article 69 qui lui donne autorité sur le bon fonctionnement des institutions. Parce que si la justice ne fait pas son travail, on frappe au niveau de la justice. Si telle structure n'agit pas correctement, on frappe sur ces structures. Tout ce qui fait souffrir le pays, c'est parce que les gens détournent, on fait semblant de les arrêter, et le lendemain, ils sont dans la rue, je m'excuse. C'est ce qui fait qu'on tourne en rond.
Merci.
Maintenant, il est question de dire que fini, quand on vous attrape, qui que vous soyez, il suffit qu'il bénéficie de la confiance du président de la République qu'il a déjà manifesté et qu'il accompagne.
Merci.
Comme on l'a fait pour Alinguette. Je pense que les choses peuvent marcher.
Merci, honorable Pastor Pamba. On vous garde encore dans cette émission. Nous revenons ici au studio où nous avons reçu M. Prince Epengue, qui est président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, et membre de la plateforme Lamuka. Il est un des porte-parole de cette plateforme. Prince Epengue, que vous inspire ces programmes d'action du gouvernement souminois?
Nous avions tous suivi Madame Judith Ntuluka, la première ministre, qui nous a exposé une allocution ou qui nous a infligé un discours à la soviétique depuis des heures, un discours qui, pour moi, à bien des égards, est un plagiat.
Un plagiat, pourquoi?
Parce que
c'est déjà entendu.
À bien des aspects, c'est un peu une partie du discours de M. Félix Tshisekedi lors de son investiture en 2019, et je vais vous le démontrer. Une autre partie, une copie-collée du discours de M. Issama Loukonde. Donc, c'est mis bout en bout, un plagiat, et que tous ont suivi, qui était un peu ennuyant, tant nous avons entendu ces poèmes. Oui, madame s'est comportée en poétesse et elle a caressé nos oreilles, mais au fond, je vais vous démontrer que ce que madame a dit, ces programmes-là, ces projets-là, a été surestimé. Lui-même a parlé même d'un budget déficitaire, en comptant si la mobilisation des recettes des régies financières, si la coopération bilatérale, multilatérale, Banque mondiale, FMI, la Banque africaine et des partenariats publics et privés, et contrats sino-congolais, etc. Et c'est bien beau d'avoir des intentions, mais on ne change pas le pays qu'avec des intentions. Encore faut-il en avoir les moyens.
Et pas de 92 milliards étalés sur 5 ans. Vous pensez qu'il sera incapable de mobiliser ces fonds pendant 5 ans?
C'est de la poudre de pelin-pimpin. Madame n'a pas les moyens de sa politique.
Ah bon, qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Je vais vous développer. D'abord, prenons en compte ces trois facteurs. Il y a les facteurs humains. Il y a le contexte de l'arrivée de madame et de l'exécution de ce programme.
Contexte politique.
Oui, mais il y a aussi les systèmes dans lesquels madame va devoir travailler. Si vous loupez ces trois facteurs, vous ne comprendrez pas l'échec déjà acquis de madame Judith. Regardez, vous l'avez rappelé à mon co-débatteur, mais il a fait semblant de ne pas avoir compris. Madame a été nommée, elle a carrément végété pendant 2 mois et demi sans être investie. C'était pourquoi? C'était pas la constitution, contrairement à ce que Félix avait dit, mais c'est les systèmes et les contextes dans lesquels il a été nommé. Il est entouré de gens qui, chacun dans son coin, a des intérêts bien définis à défendre. Et croyez-moi, la rivalité qu'il y a eu entre les poids lourds de l'Union sacrée avant la composition du gouvernement, ces rivalités seront transposées à l'intérieur du gouvernement. Donc ça va être une guerre de clans autour de la dame.
Comme l'a dit Patrice Zapamba, si madame Souminois a de la détermination, affiche une certaine détermination, ben, elle peut faire face à tous ces défis.
Je vais vous démontrer que madame n'a pas de détermination parce que madame est pris et mis dans un système qu'il ne maîtrise pas. Donc, madame,
dans lequel elle a évolué pendant longtemps quand même.
En tout cas, elle n'a pas les poids politiques nécessaires pour rivaliser avec ceux qui vont l'entourer. Et les microcosmes politiques congolais est comme un panier à
crabes. Qu'est-ce qui importe? C'est avoir les poids politiques ou avoir une certaine vision, avoir de la détermination et avoir la capacité, n'est-ce pas, de concrétiser cette vision-là. Qu'est-ce qui importe?
Ce qui importe, c'est la vision, la moralité, l'expertise, les compétences. Malheureusement, ce ne sont pas les facteurs qui ont présidé à son arrivée là. Et la classe politique est faite de manière à ce que ces atouts-là, dans ce contexte-ci, ne sont pas les déterminants pour être nommés. Alors, donc, je tenterai de dire que madame risque de passer tout son temps à arbitrer les conflits, les rivalités, où chaque clan politique va chercher à tirer les gars de son côté. Donc, je vais vous montrer qu'il faut prendre en considération les contextes, les facteurs humains. Qui va l'entourer? Les anciens visages qui reviennent au gouvernement comme Kibasa, Gisawe et les autres, qui ont démontré leurs limites, et les nouveaux visages qui, en réalité, ont été choisis sur base des facteurs purement politiques. Madame Judith ne va pas se retrouver. Donc, je vais vous montrer ces trois éléments. Maintenant, je reviens au fond. Et regardez très bien. Elle souligne qu'elle va travailler sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, sous son égide. C'est la vision de Félix, le pilier dont il parle. C'est le pilier de Félix Tshisekedi. Et ne faisons pas comme si Félix est arrivé au pouvoir hier. Ah, là, je vous parle des déterminants historiques. Ça fait 6 ans que Félix est là. Madame me dit, nous allons rationaliser la dépense pour économiser les ressources rares de l'État. Nous allons faire en sorte que les antivalets comme le non-respect de la chaîne de la dépense, l'ignorance de la procédure de passation de marché, que tous ces éléments-là ne puissent plus exister. Mais il oublie que la procédure d'urgence, c'est l'espoir favori du régime de Félix Tshisekedi. Comment va-t-il lutter? C'est pas comme Félix lutte contre Félix. Ça ne marche pas. Félix ne peut pas combattre Félix. Le régime de Félix Tshisekedi s'est distingué dans ça. L'Observatoire de la dépense publique et d'autres ONG ont démontré que sous le régime de Félix Tshisekedi depuis 2019, presque 30 ou 40% de la dépense était faite de manière d'urgence, en ignorant la chaîne de la dépense. Or, c'est la chaîne de la dépense qui permet à ce que chaque centime, chaque likuta soit bien orienté, bien utilisé, pour que les maigres ressources que nous avons, nous puissions les utiliser de manière optimale. Donc, je ne
vois pas. Vous n'êtes pas là en train d'afficher un certain pessimisme. On juge ou on reconnaît les maçons au pied du mur. Pourquoi ne pas la laisser travailler et après vous allez apprécier son action?
Donc, vous me dites et vous dites aux Congolais que même si vous connaissez que les maçons étaient compétents, donnez-lui votre immeuble, qu'il construise des murs. Les jours où l'immeuble va tomber et qu'il y ait des morts, à ce moment-là, vous allez tirer les conséquences.
Vous vous basez sur quoi?
Qu'on entende qu'il y ait des morts.
Vous vous basez sur quoi pour dire que le maçon est incompétent?
Mais je me base sur ce que je vous ai dit. Les ONG spécialistes en finances publiques nous ont dit 30% des dépenses faites, par exemple, par la présidence, sont procédures d'urgence. Mais ce cas-là, ne faisait que sortir l'argent en procédure d'urgence quand ça concernait la présidence de la République. Ça, vous le savez, c'est une vérité, c'est un fait.
Vous rappelez,
bon, comment cela va changer?
Vous rappelez ces passages dans le discours d'investiture du chef de l'État où il a dit que les erreurs du passé ne vont plus revenir?
Mais j'ai l'impression que nous sommes déjà en train de faire les erreurs du présent. Et il y en a beaucoup. Madame, quand je parle du plagiat,
c'était une de ces erreurs d'art.
Mais vous êtes en train de voir comment. Par exemple, parce que concernant la crise sécuritaire, on tue les gens, d'ailleurs on devait commencer par ça, plus de 120 morts, le gouvernement attend une semaine pour venir présenter les condoléances et même minorer le nombre de morts en parlant de 41 personnes tuées. Alors que tous les experts parlent, et la société civile de Kivu, de Beni, parle de plus de 120 Congolais tués. Donc, les erreurs du passé, les détournements continuent. Donc, ça, c'est un fait. Alors, laissez-moi donner juste des exemples pour montrer que, en tout cas, on n'accorde pas le bénéfice du doute à ce que madame a dit, parce que ça ne dépend pas d'elle. Et nous sommes en 2019. Félix Tshisekedi, dans son discours d'investiture, parle du primat du sol et du sous-sol. Et de l'agriculture comme une priorité. La revanche du sol sur le sous-sol. C'est exactement, mot pour mot, ce que madame a répété. Mais ça fait 6 ans qu'on nous a répété cette revanche du sol sur le sous-sol. Mais pourtant, elle-même reconnaît dans son discours, madame, que c'est les ressources minières qui alimentent, qui est le moteur même de la croissance économique congolaise.
Pour le moment.
Et ce n'est pas prêt à changer. Vous voyez, ces richesses-là, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est beaucoup plus facile. Ce sont des engins qui vont, qui extraient les minéraux et qui vendent. Mais la diversification de l'économie dont madame parle. Mais ça fait 6 ans que Félix parle. Il est même allé au Sénégal pour dire que maintenant, la part de la transformation, enfin, nous avons fait une économie, nous avons impliqué les maniocs dans la fabrication de la farine et nous économisons 30 millions de dollars. C'était un gros mensonge que Félix avait donné.
Donc, vous êtes pessimiste.
On n'a jamais transformé diversifié l'économie. Minot. On parle du tourisme. Mais est-ce que les potentiels touristiques que nous avons, vous le savez, qu'aujourd'hui tout le monde parle de visite Rwanda, mais en réalité, on devait parler de visite Congo. Parce que le Congo a tout, la faune, la flore. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. Combien d'argent a été investi pendant les 6 ans passés dans le secteur touristique? Absolument rien. Comment aujourd'hui nous faire croire que tout à coup, madame juste va accomplir des miracles? Alors, parce que c'est le même pilote
qui est commande. Pourquoi vous avez tendance à penser que les choses ne peuvent pas changer?
Parce que les hommes n'ont pas changé. Et les hommes, c'est le facteur cardinal. Les hommes n'ont pas changé. Les choses ne peuvent pas changer. Ne faites pas les choses de la même manière et dans les mêmes conditions et ça donne un résultat différent. Je vous donne un autre cas pour terminer.
On n'a pas assez de
temps. Quand madame parle de la jeunesse, nous allons créer, c'est pas une banque pour. Non, nous allons faciliter l'accès au crédit aux jeunes. Mais c'est un vieux discours que Félix avait déjà prononcé, c'est pourquoi je parle que l'exposé de madame est un plagiat. C'est Félix, Tshisekedi en 2019 qui promet de faciliter l'accès au crédit aux jeunes, aux entrepreneurs.
On a compris.
Et il avait même promis de créer des millionnaires congolais.
Merci.
6 ans après, on a créé des pauvres congolais et non des millionnaires. Donc, quand je vois ce que je vois, laissez-moi dire ce que j'ai dit.
Merci. Jeff Mudimbi, est-ce qu'il est là? Est-ce que le professeur Jeff Mudimbi est là? Allô?
Je suis là, monsieur.
Bonsoir, professeur Jeff Mudimbi. On n'a pas eu l'occasion de se saluer parce que, en fait, les lignes nous posaient problème. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Comment vous aussi vous analysez ces programmes d'action du gouvernement souminois?
Merci beaucoup, M. Guimaté. Permettez-moi de saluer M. Patiza Pamba et ainsi que M. Prince Tengue, dont je salue pratiquement les analyses. Permettez-moi de dire que j'ai suivi avec intérêt la déclaration de politique générale de Madame la Première Ministre. Et je pense que il s'agit d'un discours porteur de beaucoup d'espoir pour les Congolais. Mais la question que je me pose, est-ce que sommes-nous au premier coup d'entendre des discours porteurs d'espoir? Nous en avons assez subi en RDC. Vraiment assez subi. Avec des tournures savamment enlissées. Mais le problème de la République démocratique du Congo, c'est la matérialisation de tous ces beaux discours-là. Et c'est vrai, je ne voudrais pas ici faire un procès d'intention à la Première ministre.
Professeur,
Oui.
Vous avez la parole, mais est-ce qu'il est difficile, est-ce qu'il est impossible d'atteindre les objectifs qui sont contenus dans ces programmes d'action, la pacification du pays, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la création d'emplois, la création d'une économie plus diversifiée, plus compétitive, est-ce qu'il est impossible de le faire?
Non, il n'est pas impossible, j'en arrive. Alors, c'est ce que je disais, je ne voudrais pas faire un procès d'intention à Madame la Première Ministre, mais j'ai dit que ce discours est porteur de beaucoup d'espoir, mais à certaines conditions. Donc, c'est pour dire que c'est possible de réaliser cela, mais il faudrait que l'on fasse un bon toilettage dans le système politique congolais. Alors, premièrement, nous allons voir un peu l'aisance avec laquelle les ministres détournent l'argent en RDC. Non, M. Guimaté. Donc, ça choque la moralité. Donc, on détourne l'argent aisément, Et vous sentez que le système est caractérisé par le laxisme. Alors, si réellement on veut réaliser le programme du gouvernement, la première des choses, c'est d'abord combattre ce laxisme-là. Faire de sorte que l'on punisse les contrevenants à la loi. Nous voyons quand même à travers les médias, mais détourner même 1000 dollars ici, mais c'est sérieux, c'est un problème grave. Mais ici, chez nous, on détourne des millions et des millions, et dans l'entretemps, on attend qu'un gouvernement d'un pays occidental quelconque nous vienne en aide avec le même montant détourné par un ministre. Ça, ça choque. Donc il faudrait que, si réellement elle veut réussir son plan, qu'elle commence d'abord par s'attaquer à l'impunité, faire de sorte que le laxisme ne soit plus encore le partage de notre système. Deuxième élément, si réellement elle veut réussir, c'est au niveau de la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs ici implique que le Parlement ne soit pas la caisse à résonance ou encore la boîte d'enregistrement de la volonté du gouvernement. Que le Parlement fasse correctement son travail de contrepoids aux velléités des membres du gouvernement. Alors, nous venons d'apprendre, ça c'est ce qui peut créer quand même un certain pessimisme, vrai ou faux, c'est à vérifier, et je le dis bien avec des pincettes, nous venons d'apprendre que pour l'investiture du gouvernement, les députés ont exigé un certain montant. Alors, à partir de là, même si le gouvernement aujourd'hui est investi, on dira qu'il a été investi sur base réellement d'un programme qui reflète la volonté du peuple ou bien c'est sur base des pouvoirs que l'on a donnés aux députés. Voilà autant de choses sur lesquelles il faudrait vraiment s'apesantir pour permettre à ce que les institutions fonctionnent normalement. Alors, la justice. Il faudrait que la justice sanctionne réellement les contrevenants à la loi. Je pense que l'un des intervenants qui m'ont précédé l'a insinué, des gens détournent. Mais, et puis on fait une mascarade, ils sont pendant un temps là au niveau de la prison. Quelques temps après, non pour des raisons de soins, et voilà, il est malade, il demande qu'on le libère. Il est libéré, il est à l'étranger, et calmement, et la suite n'est pas connue. Donc, j'ai toujours dit que le Congolais, le Congolais, nous sommes faibles. Si nous voyons certains Congolais s'entêter trop, c'est parce qu'on ne punit pas dans ce pays. Que l'on punisse réellement, de manière exemplaire, de manière à servir des modèles aux autres, je pense que beaucoup de Congolais reviendront sur les rails. Mais si, réellement, même au niveau de la justice, on se rend compte que, bon, voilà, écoutez, comme il est de telle famille politique, bon, on peut toujours le laisser. Alors, à ce moment-là, on ne fera que déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Merci beaucoup.
Alors, je voudrais aussi dire une chose. Pour réellement travailler correctement et redorer l'image de la République démocratique du Congo, Madame la Première ministre avait déjà parlé d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels le gouvernement serait vraiment réduit, mais nous avons constaté que le gouvernement continue à demeurer éléphantesque. Et elle nous avait dit que ce serait un gouvernement de technocrates, mais on se rend compte que le critère qui a le plus primé, c'est le critère politique, mais je ne dis pas qu'on n'a pas tenu compte de la compétence.
Merci, professeur.
Mais le critère, permettez-moi, j'ai déterminé, mais le critère qui a le plus primé, c'est le critère politique.
Merci.
Alors, si ce sont les politiques qui doivent gérer ce pays au moment où les compétences sont reléguées au second plan, je pense que nous avons encore un chemin à parcourir.
Voilà, on me dit que nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Honorable Passé Zapamba, vous êtes là?
Je suis en ligne.
Voilà. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Quand on analyse les six piliers qui constituent les axes prioritaires de ce gouvernement, on se rend compte qu'il n'y a jamais de nouveau par rapport au gouvernement précédent. Ce sont les mêmes défis que ces derniers se sont confrontés dans le passé, avec les résultats chaotiques qui attendent encore ces nouveaux gouvernements, notamment la sécurité, le chômage, l'économie, le social, l'électricité et l'eau potable, pour ne citer que cela. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les programmes ambitieux que présente chaque gouvernement, mais plutôt la mise en place qui pose toujours problème. Les politiciens congolais ne cherchent pas en priorité le bien-être de la population, mais bien au contraire leurs intérêts propres.
Honorable Pasteur Zapamba.
Merci beaucoup. Je crois que cela rencontre la préoccupation qu'a évoquée Madame la Première Ministre lorsqu'on dit qu'on doit travailler sur l'homme. Vous savez qu'une société ne peut être régie qu'en fonction des principes. Et vous savez que les principes se trouvent dans les différents textes qui régissent notre pays, que ce soit les lois et tous les autres textes qu'on prend. Il ne suffit pas de prendre les lois, mais il faut savoir les appliquer. Et là, je peux rejoindre la préoccupation de notre auditeur lorsqu'il dit que ce sont les mêmes discours. Oui, mais maintenant, s'il y a des hommes qui sont respectueux des textes de la République, qui sont respectueux de lois, et des hommes et qui ont la volonté d'appliquer les textes ou les lois qui existent et de les mettre en application, en ce moment-là, vous allez voir que ceux qui vont développer la RDC ne seront pas des extraterrestres qui viendront d'ailleurs. Et quand j'ai suivi, comme le disait tout à l'heure Prince Epengue, c'est normal qu'il soit critique, c'est normal qu'il soit pessimiste. Je crois que Madame la Première Ministre qui nous suit maintenant et son équipe gouvernementale peuvent puiser de la matière dans ce pessimisme pour dire que à date de maintenant, parce que le mot le plus grave qui ronge la République, c'est l'impunité, c'est le vol, c'est le détournement. Et si on dit « halte », nous mettons un point final à ces comportements. Désormais, nous créons des hommes nouveaux à travers la sanction. On peut s'en sortir, on peut y arriver. Il suffit qu'on mobilise et qu'on mette fin à la guerre. Vous savez que l'on doit produire dans un pays, pour parler de la croissance économique, pour parler de la diversification, il faut qu'il y ait des investissements. Et on ne peut pas investir là où il y a des bruits de bottes. On ne peut pas faire confiance à un pays où les gens détournent du matin au soir. Il suffit tout simplement que l'on punisse sévèrement les responsables, parce que ce sont les responsables politiques surtout qui sont à la base, n'est-ce pas, de tout ce que nous connaissons dans notre pays. Et donc, il suffit qu'on applique la sanction. Vous allez voir que la crainte de la sanction sera le commencement de la bonne gouvernance.
Merci, Prince Epengue. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Je vous appelle à partir de la ville de Bukavu en province du sud Kivu. Je pense qu'en soi, ce programme d'action du gouvernement souminois est à saluer. C'est un programme ambitieux. Cependant, il serait un bon programme si, en pratique, il n'arrive pas à servir les intérêts égoïstes des membres du gouvernement et leurs partis et regroupements politiques. En fait, il faudrait qu'il soit un programme qui répondrait d'abord et de manière un peu plus satisfaisante aux desiderata des populations congolaises sur les plans sécuritaires, socio-économiques et autres. Auquel cas, il ferait l'échec du gouvernement. C'est pourquoi l'Assemblée nationale ne devrait pas s'arrêter à son investiture intervenue aujourd'hui et s'en contenter. Mais elle ferait mieux de jouer réellement son rôle par rapport à l'application des contrôles parlementaires, cela de manière sérieuse et rigoureuse.
Prince Epengue.
L'auditeur a parfaitement raison, dans une certaine mesure, parce que quand vous présentez un programme, comme ce programme et poème, ce plagiat que Madame Judith vient de présenter, et qu'on vous promet de continuer.
N'appelez pas ça plagiat, s'il vous plaît, parce
c'est
que
un plagiat.
C'est un programme.
C'est un plagiat.
Vous n'avez pas d'éléments de preuve.
Je vous ai démontré ici que des phases entières sont tirées du discours de Félix Tshisekedi de 2019, des discours de Samalou Kondé, des discours même de Lunkamba. Quand on vous promet la construction des routes qui vont quitter
Nord Kivu, Ituri, Tchopo, qui ne croirait pas ça, qui n'aimerait pas ça? Quand on promet aux jeunes que on va vous aider à accéder au crédit, mais nous tous, nous voulons accéder au crédit. Moi, j'ai été entrepreneur, je voulais avoir le crédit, j'ai fait des années, je ne pouvais pas. Et quand on dit qu'on va créer un fonds pour soutenir ou pour aider les personnes démunies à accéder à la justice, qui ne croirait pas à ça? Mais le problème, c'est que d'où viendront les moyens? Il faut féliciter Madame, tout n'est pas noir, il faut féliciter Madame Toulouka. J'ai pensé qu'elle allait être très épuisée parce qu'après avoir accouché ce gouvernement par césarienne, avec toutes les difficultés qu'elle a eues, elle a fait quand même une très bonne allocution, presque un poème. Mais au fond, nous sommes, quand vous écoutez, c'est alléchant, c'est attirant, c'est beau comme discours. Mais d'où viendra l'argent? Je vous ai dit ici, Madame Judith dit, les régies financières vont mobiliser l'argent. Et elle compte aussi les partenaires bilatérales et multilatérales, BAD, FMI, Banque mondiale, pour donner la part du budget qui viendra de l'étranger.
Comme toujours. Hein?
Mais j'aurais souhaité, et c'est là où on revient à ce que l'auditeur a dit, que l'Assemblée nationale ou le Parlement dans son ensemble, parce qu'il est bicaméral, nous donne l'érédition des comptes, les budgets d'avant, la reddition des comptes, qu'on nous dise combien a été dépensé. Parce qu'il y a une adhésion très souvent.
Ça va se faire lorsqu'on sera pendant la session budgétaire, lorsque le gouvernement devra, n'est-ce pas, défendre le prochain budget.
Non, ça malheureusement, Mboso avait bloqué le contrôle parlementaire pendant presque deux ans.
C'est le plus Mboso qui est là.
Pendant presque deux ans.
C'est le plus Mboso qui est là.
Tout le monde dit Alenguetti. Mais oui, Alenguetti fait partie un bon travail, mais parfois aussi, quand on lui demande d'aller enquêter la présidence, il y tremble. Il ne veut pas, il a peur parce qu'on va le renvoyer par Félix Tshisekedi. Au fond, le jour où on va faire des redditions de comptes, c'est là où on verra. On vous dit que le budget, par exemple, de 16 milliards, mais le taux d'exécution est de 40%. Et les 40%, 60%, là, ce 60%, là, les 80%, 60% va pour payer les salaires des ministres et des agents des ministères et autres. Bref, je voudrais savoir d'où viendra l'argent. Parce qu'entre-temps, nous au sein de la MOCA, nous au sein de la DD Congo, et c'est important de le souligner, en 2019, quand le président Louis Martin Fayulu nous parle de réformes, nous avions dit que le Congo peut avoir un budget de 200 milliards, 300 milliards de dollars. C'est possible, à condition que, un, que l'on fasse des réformes fiscales. C'est important de faire des réformes fiscales.
Mais elle a évoqué ça?
La fiscalité congolaise, oui, mais...
Ça a toujours été prévu, n'est-ce pas?
Non, c'est comme ça. Non, ça a été prévu. Vous savez pourquoi j'évoque ça? Parce que madame a dit qu'elle va travailler sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Ce qu'elle oublie, c'est que Félix Tshisekedi a déjà fait 6 ans. Et que pendant 6 ans, il n'a jamais initié des réformes fiscales. Or, que la fiscalité congolaise étouffe les entrepreneurs et dissuade les autres à ne pas venir au Congo. Nous avions demandé la réforme de l'appareil judiciaire depuis 6 ans. Félix n'a pas opéré ces réformes-là. Nous avions parlé de la réforme de l'administration qui continue à être lourde et qui freine la création des entreprises, malgré la présence de l'OADA. Donc, pour nous, nous ne voyons pas comment Madame va mobiliser
les 18 milliards,
pouvoir investir dans tous les secteurs.
Merci.
Avec toutes les promesses faites, merci. On a l'impression
on a compris.
Que c'est tout simplement une façon, encore une fois, comme Samalou Koundé, comme Lukamba bien avant lui, des promesses et fallacieuses. On a caressé les Congolais au sens des poils, mais au fond, c'est la même chose.
On a compris, professeur Epengé. Professeur Jeff Moudimbi, vous réagissez aussi à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Cabinda.
C'est Maître Charles Kalonji, conseiller juridique de l'Université Notre-Dame de Lomami, doctorat à l'Université de Kinshasa. Le programme tel que défini par la dame chef du gouvernement, jusque-là nous fait confiance. C'est à eux de mériter cette confiance que la population leur accorde. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le social du Congolais, c'est éradiquer la guerre et pousser loin les ennemis de la République. Nous ne leur demandons pas ce qu'ils n'ont pas, qu'ils se battent pour remettre le peuple d'abord à sa place. De toutes les façons, nous leur souhaitons un fructueux mandat et surtout, félicitations à la masculinité positive qui a prouvé de quoi elle est capable devant la face du monde en débobinant un texte le plus long dans un français qui est très acceptable. Et nous confirmons que cette fois-ci, le gouvernement fera des prouesses pour le bien des Congolais que nous sommes.
Honorable Passé Zapamba, vous êtes là?
Oui.
Voilà,
oui,
vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui vient de nous appeler de Cabinda. Mais comme on est à la fin de l'émission, on doit commencer à conclure aussi. Hein. Mais vous allez aussi, parce que dans toutes vos interventions, tous vous dites que c'est possible, mais à condition que, et c'est parmi ces conditions, c'est les réformes, n'est-ce pas, qui doivent être initiées dans beaucoup des secteurs, et c'est les paradigmes qui doivent changer et tout ça. Et à votre avis, elle devrait s'attaquer à quelles réformes? Quelles sont les premières réformes auxquelles Madame Soumina devrait s'attaquer pour espérer, n'est-ce pas, donner de l'espoir son programme d'action pourra se concrétiser. Ce sera votre conclusion.
Oui. Ouais. Si il faut parler des réformes, je peux répondre quelque peu à mon co-débatteur Prince qui pose la question de savoir d'où viendront les finances ou d'où viendra l'argent pour matérialiser.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on a plus assez de temps.
Les réformes sont entreprises. Peut-être que mon co-débatteur n'est pas très attentif sur les réformes fiscales qu'on a entreprises, bien qu'elles ne soient pas encore arrivées à terme. Les réformes sont entreprises. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est la transformation de l'homme, parce que c'est l'homme qui doit mettre ses réformes en pratique. Et ce n'est pas une histoire seulement de ceux qui gouvernent, c'est aussi une histoire du comportement du Congolais dans son ensemble. Parce que ceux qui refusent de payer les impôts aujourd'hui, ce sont les Congolais. Ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui, par exemple, écouter et respecter le code de la route, ne pas jeter les immondices et tout ça, ce sont des Congolais. Donc la première réforme, c'est la réforme de l'homme congolais. Il faudra plutôt qu'on puisse formater l'homme congolais par l'application de la sanction, de quelque manière que ce soit. De cette manière-là, on pourra maintenant, comme on l'a dit sur l'amélioration du climat des affaires, les lois qui sont votées soient mises en application, les opérateurs économiques et la population s'adaptent et nous pouvons y aller. En ce qui concerne le contrôle parlementaire, c'est vrai que de tout le temps, les législatures passées, le contrôle parlementaire a été nul. Il y a eu la production législative, il n'y a pas eu le contrôle parlementaire. Si maintenant on associe au contrôle administratif exécuté par l'Inspection générale des finances le contrôle politique, je crois, en voulant aussi et avec la détermination de madame de vouloir imposer à l'homme congolais ce qui doit lui permettre de protéger son pays, de protéger son patrimoine, on pourra tant soit peu réconforter l'armée, mettre l'armée dans des conditions idéales pour éradiquer Merci. Ou pour enrayer la guerre de l'autre côté. On va attirer la confiance des opérateurs économiques et des investisseurs. Nous pouvons petit à petit commencer à résoudre nos problèmes.
Merci, Prince Epengé. Vous allez aussi conclure. Hein. Comment vous entrevoyez la suite par rapport à l'action du gouvernement souminois et quelles sont les chances que vous accordez à ce gouvernement?
En tout cas, dans ce contexte où, déjà, un auditeur l'a souligné, plutôt un co-débatteur l'a souligné depuis, le professeur l'a souligné, les députés de l'Union sacrée, pour investir un gouvernement de l'Union sacrée demanderait de l'argent.
Et heureusement que nous avons... Monsieur Passé Zapamba, vous êtes là?
Allô? Des rumeurs dans
oui, mais est-ce qu'on peut vivre
des rumeurs monsieur, et puis vous en faites des réalités?
Honorable,
je prendrai même Prince Epengé au mot. Est-ce qu'il est déjà passé vérifié dans le livre de compte, même ce qu'ils ont crié la fois passée? On est passé de 21 000 à 33 000. Je crois que ça, c'est peu responsable. Donc, non, c'est une question honorable, honorable pour un gouvernement. S'il peut amener des preuves de l'exigence de ces moyens-là, c'est trop bas ça, c'est ridicule.
Non, donc, passons à autre chose. Oui, vous ne confirmez pas avoir exigé de l'argent comme condition pour investir le gouvernement.
Je brûlais d'envie depuis le mois de mai. Nous avons demandé que le gouvernement soit investi pour qu'on remette le peuple au travail. Comment voulez-vous encore que nous qui demandons qu'on mette le gouvernement en place,
puissions
encore exiger de l'argent?
Il n'y avait pas de papier,
monsieur le journaliste. Ça ne nous reflète pas. Disons autre chose.
Merci.
On ne peut pas fonder un débat sur des rumeurs.
Honorable Epengué, il n'a pas confirmé, le député,
c'est son droit de nier.
Bon, quelles sont les chances que vous donnez à ce gouvernement?
C'est la vérité. Même pour les primaires, au fin d'accéder à la présidence de l'Assemblée nationale, l'argent avait circulé. Les députés provinciaux de l'Union sacrée,
vous accordez quelle chance
pour élire les propres gouverneurs, l'argent avait circulé.
Vous accordez quelle chance?
Et c'est pareil pour les gouvernements, pour que les gouvernements soient investis. Après toutes ces querelles intestines des membres de l'Union sacrée, l'argent est en train de circuler aussi. Ce qui prouve à suffisance que les parlementaires ne seront pas en mesure de contrôler ces gouvernements. S'il y aura des motions, probablement des motions alimentaires. Mais bien évidemment, honorable, je ne vais pas entrer dans les chicayas de l'Union sacrée, mais j'ai fait constater que l'Union sacrée a bloqué toute une nation. Les mouvements d'immers des membres de l'Union sacrée doivent être gérés par la nation. Et okay, l'Union sacrée.
Donc vous n'accordez aucune chance au gouvernement soudanais.
Non, c'est un gouvernement du Congo. Si la fraude corrompt tout, même si ces gouvernements étaient ici des élections chaotiques et qui n'ont pas respecté la volonté congolaise, mais je ne peux que souhaiter bonne chance.
Merci.
Mais je ne comprends pas pourquoi, et ça c'est important, je parle de l'Est, je ne comprends pas pourquoi, alors que il y a eu plus de 120 Congolais tués à Beni, alors que la guerre d'agression fait rage, alors que l'Ituri, les Nord-Kivu et le Sud-Kivu, plus de 5 millions de déplacés, rien qu'à ce mois d'avril, 900 000 Congolais sont déplacés de guerre, mais que l'on donne et qu'on fasse du secteur de la sécurité deuxième priorité, et que la création de l'emploi et de la stabilisation du cadre macroéconomique première et priorité. Je ne comprends pas cette logique-là.
Merci.
Alors que c'est la guerre, récupérer les territoires, qui devait constituer la priorité numéro un pour Mme Judith Félix Tshisekedi. Je ne comprends pas une forme de négligence, parce qu'on a vu même Félix Tshisekedi qui s'est rendu au stade des martyrs, les jours même où la population de Beni était en train de ramasser les morts dans les lits des rivières et la forêt, et un communiqué du gouvernement est sanctionné par
Monsieur
Mouyaya, minant même le nombre de morts. Nous indignons au sein de la Mouka, au sein de la Zé Congo, de ce comportement irresponsable et léger de la part d'un gouvernement qui est censé protéger ses concitoyens.
Merci, professeur Jeff Mudimbi. En conclusion, est-ce qu'il y a possibilité de formuler deux recommandations à Mme Suminoa pour que elle espère, n'est-ce pas, réaliser son programme d'action à votre avis?
Ok, merci beaucoup. J'exprime quand même moi une inquiétude. Je me suis senti très marginalisé dans ce débat, parce que même la question soulevée par le compatriote de la province de l'Omami qui m'était adressé, vous l'aviez orienté à qui j'avais déjà parlé. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que nous pouvons vraiment faire confiance à ce gouvernement, mais c'est toujours sous réserve. Parmi les recommandations que nous pouvons formuler, c'est notamment l'instauration de la discipline. Vraiment, nous brillons par l'indiscipline. Et la discipline suppose beaucoup de choses. La discipline suppose, entre autres, l'observance des lois, des dispositions réglementaires qui nous régissent. On a parlé ici de la passation des marchés. Et la loi congolaise, elle est très claire. Le gré à gré est une mesure exceptionnelle, mais sinon c'est l'appel d'offres. Vous voyez ici même les marchés les plus importants sur le plan pécuniaire sont toujours conclus au gré à gré, et ça ne gêne personne, et ça fait très mal. Donc si on instaure vraiment la justice, on punit la discipline, on punit, on observe les lois, je pense qu'il pourrait aussi réussir. Deuxième élément, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. qu'on respecte réellement ce principe-là. Alors, vous allez voir que les institutions vont très bien marcher. Et un autre élément que je voulais ajouter, et je l'ai toujours dit dans mes interventions, sans moyens, il n'y a pas moyen. Que le gouvernement soit en mesure de mobiliser suffisamment de moyens et les canaliser vers la réalisation des objectifs que le gouvernement vient de se fixer. Alors, pour cela, il faudrait non seulement que l'on mobilise les moyens, mais que l'on puisse vraiment les canaliser, comme je venais de le dire là, en exigeant que tout le monde puisse rendre compte à la nation.
Merci.
L'exercice du pouvoir public n'est pas, je termine, l'exercice du pouvoir public n'est pas seulement l'accès aux prébendes que ce pouvoir offre, mais c'est un service que l'on doit rendre à la nation. Les ministres doivent se considérer comme des esclaves de du peuple congolais.
Merci,
et
professeur.
Et terroriste, ce genre de choses, il y a lieu que le pays fonctionne bien.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, professeur Jeff Mudimbi, Prince Epengue et Pasteur Apamba d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Donald Madimba qui l'a réalisé et Alain Ngoï qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fouanani, d'Hervé Voka et de Clément Chimanga sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.